Bonsoir à tous, bienvenue au Festival international de science-fiction de Nantes, Les Utopiales. Vous avez reconnu évidemment cette petite introduction, le thème de X-Files, Mark Frost. Donc petite musique liée évidemment à un célèbre générique de science-fiction. On va parler aujourd'hui en thème avec l'exposition que vous pouvez voir ici à Cité des Congrès, à l'entrée musique et science-fiction, des différents liens, des différentes thématiques. Derrière moi, vous voyez défiler déjà quelques albums tout à fait emblématiques, principalement des années 60 à 80. Donc si vous les avez eus chez vous, eh bien c'est que vous avez quelques cheveux blancs, je pense, sur la tête. On va parler des liens, il y a différents liens, vous verrez, entre musique et science-fiction, à la fois au niveau de la narration, à la fois au niveau de l'iconographie, et également au niveau des sons peut-être. Ce sera une conférence un peu particulière, puisqu'il y aura de la musique, évidemment, on ne va pas parler de musique sans en passer. Moi, je ne chanterai pas, fort heureusement. D'autres peut-être à cette table, Horace Perret, qui est sociologue de formation, qui dirige une association en Suisse qui s'appelle Au Musique, qui était le curateur de l'exposition Musique et Science-Fiction, et qui est un spécialiste à la fois de la musique, mais aussi des expositions, donc qui a pas mal de bagages derrière, a fait un joli projet il y a quelques années sur musique et conscience, musique et revendication sociale. Et voilà, depuis quelques années, a travaillé avec moi sur musique et science-fiction. Patrick Couton, traducteur littéraire, entre autres des œuvres de Terry Pratchett et d'Orson Scott Card, si je ne m'abuse.
Oui.
Mais avant tout, peut-être musicien professionnel qui nous parlera peut-être de musique et science-fiction sur un autre ton que moi-même. Voilà. Et mon ordinateur qui nous jouera toutes les musiques autres. Alors, musique et science-fiction, c'est un thème très large. Quand on a voulu aborder ces thématiques-là, on ne savait pas trop comment s'y prendre, si ce n'est que dans la maison d'ailleurs, musée que je dirige, il y avait plusieurs centaines de ces disques, comme ceux que vous pouvez voir ici. Et on s'est dit, voilà, en fait, il y a un vrai trésor, il y a une vraie richesse, si on veut, tout d'abord iconographique. C'est évidemment avant tout une thématique qui apparaît des années 50 aux années 90, donc c'est une thématique qui est liée à ce support bien particulier qui est le disque vinyle. Hein. Je crois que ce n'est pas un hasard si les liens entre musique et science-fiction ont eu tendance à disparaître à partir des années 90, lorsque le CD a remplacé comme support, puisque évidemment, durant les années 50, 60, 70, il y a eu, c'est la période de l'âge d'or, si on veut, de l'illustration de pochettes de disques. Vous verrez derrière moi des gens comme Roger Dean ou comme Asher Giger pour Emerson, Lake and Palmer, entre beaucoup d'autres. Et il y a aussi des pochettes, des notes intérieures, hein, des disques qui racontent toutes sortes d'histoires, puisque je crois que Horace, les points de convergence entre musique et science-fiction, il y a à la fois la narration, il y a l'image et il y a le son, en fait. C'est ce que vous pouvez développer un peu là autour.
Oui, c'est ça. Disons, pour l'exposition, on a abordé la thématique sous trois angles. On parle de trois points de contact, c'est-à-dire visuel, forcément les pochettes, sonore, deuxième point de contact plutôt sonore, lié aux instruments de musique. Des instruments souvent innovants, puisque d'abord ce sont les premiers instruments électroniques, ondes Martenot, Theremin, puis les synthétiseurs qu'on connaît, Moog, et puis d'autres encore. Et la troisième entrée dans l'exposition, dans cette thématique, c'était le narratif, c'est-à-dire vraiment le contenu des chansons. Donc sous ces trois angles, on peut voir que les musiciens parfois cumulent ces différents angles dans leur musique.
Si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, le point de contact entre musique et science-fiction, il est toujours un peu par la bande, si on veut. Il n'y a pas véritablement de musique de science-fiction. Est-ce que c'est possible d'avoir de la musique vraiment qui soit de la science-fiction en tant que telle ?
On ne peut pas parler vraiment de musique en soi, de science-fiction. Elle fait toujours référence à un contexte, justement un film. Souvent les films qui ont été ensuite cités par des musiciens, mais aussi des instruments, comme je disais, des instruments comme les premiers synthétiseurs qui ont une connotation vraiment futuriste.
Ou le theremin, qui est un instrument de musique, vous connaissez sans doute, hein, qui a été inventé il y a presque un siècle maintenant et qui, dans les années 50, est devenu emblématique de la science-fiction de par son usage dans un film qui s'appelle Planète Interdite. C'est une musique assez incroyable de Louis et Bibi Baron. Et cette utilisation d'un des premiers instruments de musique électronique dans un film de science-fiction, eh bien, va marquer le genre, puisque cet instrument va par la suite tout le temps être référencé ou relié à la science-fiction. On écoute un morceau. Quand même assez incroyable quand on pense qu'on est en 1956, hein, dans un film très grand public. Je crois que quelqu'un a parlé d'Avatar il y a quelques minutes ici, à cette table, sur cette même, ce même fauteuil. C'est pas dans un film de ce type-là qu'on retrouverait ce type de musique, bien évidemment. Et c'est à partir des années 50 donc qu'il y a cette connotation de nouvelle, on va dire, la nouvelle technologie des instruments de musique va être reliée à la science-fiction. Donc voilà, on a un Moog, on a des theremin, on a des synthétiseurs. Et il y a ce qu'on appelle les novelty records, hein, je crois, Horace, la space age pop, la musique d'ascenseur spatial, qui dès les années 50 va utiliser la science-fiction comme lien entre le consommateur et le futur, en quelque sorte, c'est ça.
Oui, exactement. En fait, dans ces années-là, c'est donc le décollage vraiment de la société de consommation, aussi l'envie de s'amuser après la guerre et un regard vers l'avant, vers l'arrivée aussi des premières stéréos dans les familles, dans les pavillons de banlieue. C'est une musique qui se veut distrayante et puis qui recourt aux imaginaires de science-fiction comme une touche d'exotisme dans les salons des pavillons de banlieue. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir sa touche d'exotisme bien confortablement assis dans son salon.
Donc c'est le haut point de ce qu'on appelle le space age, quand même, hein, début de la conquête spatiale, Spoutnik, et cette mythologie de l'espace comme ça qui s'est développée pour tout un chacun, c'est ça?
Oui, exactement. Un des labels célèbres de Space Age, qui sont souvent des grands ensembles jazz, qui parfois agrémentés de touches électroniques, mais souvent qui quand même sont une musique qui est assez easy listening. L'un des grands labels de cette musique avait comme mot d'ordre The Sound of Tomorrow Today. C'était vraiment un peu, ça résume bien l'état d'esprit.
On peut dire que Les Baxter représente, fait partie de ce mouvement un peu de lounge, musique d'ascenseur spatial et autres. C'est un peu dans cet esprit-là.
Exactement. Je sais pas exactement comment il arrive dans ce genre, mais c'est quelqu'un qui vient du jazz, qui est un arrangeur et qui sent tout d'un coup que là, il y a quelque chose qui se développe.
On va écouter un petit bout alors peut-être de Saturday Night on Saturn. Donc samedi soir sur Saturne, extrait du disque Space Escapade.
Thank you.
de cocktail party spatial, hein, où il y a quelques sonorités nouvelles, mais qui est pas peut-être très audacieuse. Dans d'autres domaines, il y a la musique, on va dire, expérimentale, il y a des gens comme Terry Riley ou d'autres dans la musique classique. Je ne sais pas, Patrick Couton, si vous voulez nous en parler, de la musique classique expérimentale ou pas du tout.
La musique classique expérimentale, oui, la musique classique peut-être un peu, oui, expérimentale, je ne sais pas. En musique classique, oui. Tu veux que je parle un peu de musique classique?
Oui, c'est
par exemple, oui, parce que depuis très longtemps, il y a eu de la musique faite sur des thèmes de SF. Enfin, à ma connaissance, l'une des plus anciennes, c'est une musique de Haydn, qui s'appelle Le Monde sur la Lune, Le Monde de la Lune, je crois. En italien, je ne sais pas comment c'est, mais c'est Le Monde de la Lune, qui doit dater de la fin du XVIIIe siècle.
D'accord, donc on va avoir. Il y a aussi évidemment Hoffmann qui adapte Jules Verne.
Offenbach.
Offenbach
a fait, d'après Jules Verne, Le Voyage dans la Lune, qui était donc de la Terre à la Lune. Apparemment, sans lui demander d'ailleurs son autorisation, ce qui fait qu'ils se sont fâchés. Mais bon, ça s'est arrangé après, peut-être financièrement, je ne sais pas comment ça s'est passé.
Donc en fait, il y a des musiques, on va dire, un peu traditionnelles, dont on ne s'attend pas vraiment à qu'elles soient proches de la science-fiction, mais qui ont intégré, si on veut, qui ont utilisé les métaphores de la science-fiction, en quelque sorte.
Oui, oui. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, beaucoup après Offenbach. Hein, il y a eu aussi la musique classique qui a été utilisée dans les films de science-fiction, hein, évidemment, hein, mais ce n'est pas la musique expérimentale.
Non, mais elle est devenue, on va dire, par contamination thématique, quelque part. Si on entend aujourd'hui
Zarathustra,
évidemment, on pense à 2001.
Oui, bien sûr, oui.
Mais, c'est vrai que même le jazz, par exemple, ou le funk, enfin, des genres qui sont assez éloignés de la science-fiction, ont récupéré la science-fiction. On voit ici une image de Sun Ra. Vous pouvez nous en dire deux mots, Horace ?
On peut dire qu'il y a dans la musique une science-fiction noire américaine vraiment intéressante. Sun Ra et sa mythologie qui lui permet de chercher une sorte d'ailleurs historique, une échappatoire à la situation des droits politiques des noirs, des afro-américains à cette époque, dont le recours aux métaphores justement de science-fiction, il y a comme un ailleurs qui est une vague, disons un moyen de contourner l'oppression par l'imaginaire. Donc là, il y a des pistes très intéressantes qui sont...
Donc en fait, sous ce déguisement d'un être qui vient de Saturne, je crois, c'est quelque chose comme ça, et qui débarque sur Terre, en fait, il peut recomposer, il peut se réapproprier ou se recréer un passé, c'est ça en fait. Il n'est pas obligé d'assumer ce passé très lourd de l'esclavage, si je comprends bien, non?
C'est dur d'expliquer Sun Ra en termes rationnels comme ça, en quelques phrases. Je crois que c'était pas son but justement d'avoir une doctrine, établie. Mais oui, je pense dans l'esprit, il y a une tentative vraiment très intéressante de tracer un autre chemin historique pour les Afro-Américains, qui est repris après par George Clinton, par d'autres, qui est comme un fil conducteur un peu souterrain dans la musique noire américaine. Et bon, c'est clair que Sun Ra disait je viens de Saturne, il n'a jamais voulu admettre qu'il était terrien, on ne savait pas vraiment son âge non plus. C'est quelqu'un de fascinant, quoi.
En tout cas, pour lui, Space is the Place, hein, c'est ça le titre de son film. On va écouter un morceau, Rocket No. 9. Rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket morceau extrêmement déconstruit et bizarre. Hein. On va entendre d'autres choses assez étranges. Mais qu'en est-il, Horace, au niveau de la chanson française, dans le domaine francophone? Parce que là, on va parler beaucoup de rock encore, de jazz, de funk. On passera par la Jamaïque et tout ça, évidemment. Mais si on a le temps, puisqu'on n'est pas là jusqu'à 9h non plus. Dans le domaine francophone, qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient de la science-fiction quand même un peu?
On parlait de Novelty Records avant, c'est-à-dire une tendance de l'industrie du disque dans les années 60 à se réapproprier la thématique, les thématiques de science-fiction, l'engouement pour l'espace dans le format 45 tours pour des morceaux qui n'ont finalement pas grand-chose à voir au niveau sonore avec cette atmosphère, mais qui utilisent ça comme argument de vente. En fait, on met en soi le nom en avant qui fait référence à la SF, soit une pochette affriolante. Dans le domaine francophone, on constate le même phénomène, peut-être un peu plus tard, avec des Novelty Records, version française, je ne sais pas comment le traduire, mais c'est souvent Henri Salvador, plein de gens connus qui chantent littéralement les morceaux américains traduits, quoi. Le Martien, on a plein de choses là, mais peut-être Philippe connaît mieux que moi.
Patrick. Patrick. Non, il y a aussi des gens moins connus, par exemple, qui se souvient de la chanteuse de Christine Pilzer, qui en 1967 a enregistré un titre qui était Mon petit homme spatial. Et elle copule visiblement, d'après ce qu'on entend, avec un god Saturne, avec lequel elle aura un petit bébé spécial. Bon, c'est pas d'un grand intérêt. Musicalement, c'est pas du tout de la science-fiction, c'est vraiment du yéyé des années 60, quoi.
Bon, et on pense aussi à Brigitte Bardot, Contact, ou des choses comme ça, peut-être, je veux dire, qui sont quand même plus intéressantes, peut-être, musicalement.
Ah oui, ça c'est plus intéressant, oui.
On est aussi encore un peu dans la science-fiction. Mais il y a aussi des grands chansonniers qui ont fait de la science-fiction. Oui. Je pense à Guy Béard.
Oui, bien sûr. Étoile garde à vous, c'est la plus connue, mais il en a fait d'autres. Les titres ne me reviennent pas, mais...
Sans parler du meilleur opéra rock de tous les temps, quand même.
Comment aussi. Il y a quelqu'un qui a dit... Oui, les enfants sur la Lune, oui.
Guy Béard qui disait, je crois, au début des années 70, qu'il était le plus grand spécialiste de science-fiction en France, hein, tout de même.
Ah bon?
Ah oui, absolument.
Ah ben ça, oui. Ça c'est la science-fiction.
Et le meilleur opéra rock de tous les temps, quand même, Starmania, qui est quand même c'est la science-fiction. Hein. Donc, comme quoi, il y a quand même, la France a produit des chefs-d'œuvre du domaine.
Oui. Non, mais même, pour en revenir un petit peu quand même à la musique classique, mais plutôt française, Laurine Mazel a fait une œuvre... dans les années 2000, il me semble, qui s'appelle 1984, d'après George Orwell.
D'accord, et sachant aussi que Mylène Farmer, vous voyez, j'ai toutes les références, Mylène Farmer a demandé à H.R. Giger de dessiner son environnement scénique, hein, au début des années 2000, sauf erreur, donc tout cet environnement un peu goth, SM et bizarre, c'est l'illustrateur, artiste de science-fiction H.R. Giger, en Suisse, qui l'a réalisé. Mais revenons à des vrais... musicien, quand même. Boris Vian.
Boris Vian, oui. C'était un musicien. C'était pas un grand musicien, mais un musicien, c'était surtout un écrivain, un poète et un traducteur.
Tout comme toi.
Oui, plus connu, c'est tout, quoi. Et qui a écrit quand même plusieurs centaines de chansons, au moins 400, d'après quelqu'un qui aurait référencé tout ça.
Qui était un grand fan de science-fiction.
Qui était un grand, bah oui, puisqu'il a traduit du Van Vogt quand même, les bouquins du Nona et tout ça. Là. Et qui a écrit effectivement quelques chansons qui ont un rapport avec la science-fiction. Et,
on veut bien en avoir la preuve.
D'accord. Alors pour ce faire, je prends un instrument qui est très science-fiction. Et donc, il a écrit, entre autres, la Java martienne. Donc, je vais essayer de créer une ambiance un peu extraterrestre, au début en tout cas. En descendant de ma fusée, je t'ai trouvé presque aussitôt, et je suis resté médusé. Tu m'avais pris comme au lasso, je t'ai suivi sur la pelouse, tes tentacules autour du cou, et avec tes petites ventouses, tu m'as fait des baisers partout. Les musiciens soufflaient sans trêve dans leurs bazouk et leurs frappons, et cette musique de rêve me perforait jusqu'au trognon. J'évoquais des orgies superbes, des bacchanales dans les canaux, et pendant qu'on s'aimait dans l'herbe, je fredonnais ces quelques mots. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça, oui, ça tourne à tour de bras. La Java d'amour, Martial Java, que j'ai connu dans tes bras. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. On s'est aimé comme dans un rêve, mais hélas j'ai dû repartir, et nos amours ont été brèves. Chérie, je voudrais revenir. Ton nom me hantera sans cesse durant les longues nuits d'été. Ton nom doux comme une caresse, groupe flic, je te prie que t'as mis croqué. Un jour je reviendrai peut-être chercher le fruit de nos amours. Cet enfant bâti comme un être qui naquit au bout de 8 jours. En voyant son père à marcir, le cher il aimera beaucoup, et prendra pour courir lui dire ses 13 jambes à ses 2 coups. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes 3 grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça, oui, ça tourne à tour de bras. La Java d'amour, Martial Java, que j'ai connu dans tes bras. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes 3 grands yeux. Java martienne, ma martienne aux 3 grands yeux. Allons-y, Mars ou crève, je remonterai aux cieux.
Merci, merci infiniment, Patrick Coudon. Superbe interprétation de la Java martienne de Boris Vian, qui date de 1957, quelque chose comme ça, je pense. Je crois bien. Donc, de toute façon, personne n'a accès au net ici, donc personne ne pourra contrôler. Horace, là, on avait typiquement un exemple d'une narration conjecturale, on va dire. C'est l'histoire qui est dans la chanson, qui raconte une histoire de science-fiction, si on veut. Mais des fois, c'est un peu moins... clair que ça. Hein. Des fois, qu'on ne chante pas forcément dans une langue connue, on va dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Qui connaît le Cobayen, Magma, par exemple.
Cobayen, voilà, mais qu'est-ce que c'est?
C'est une langue...
Je vois que des mains qui se lèvent.
C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui parlent Cobayen par ici. Bon, en tout cas... des gens, donc vraiment...
Parlez-nous alors du Cobayen et de Magma. De quoi est-ce qu'on parle? Si je suis totalement ignare. Moi.
Non, c'est vraiment l'invention d'une langue totalement originale pour chanter, pour donner un sentiment d'étrangeté encore plus soutenu à la musique de ce groupe français, vraiment.
Donc c'est à l'époque où les puppies sévissaient, apparaît Magma avec les cheveux longs, la barbe et la griffe comme symbole de pouvoir, je crois, et cette langue inventée, tout à fait bizarre. Le Cobayen, c'est ça.
C'est vrai que là, on est dans un moment particulier de la musique une réaction peut-être à une évolution un peu commerciale de la pop après 10-15 années, vers la fin des années 60, donc une volonté de revenir à des démarches plus artistiques, plus sans compromis, quoi. Donc je parle du rock progressif, une volonté d'avoir une démarche plus artistique, plus originale, Magma peut s'inscrire dans cette catégorie de rock progressif.
Donc le rock progressif, en deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est déjà souvent des morceaux qui durent longtemps. Un format, le début du concept album, c'est-à-dire vraiment raconter une histoire sur une longue durée, avoir une pochette aussi, enfin considérer l'album comme un tout, pochette, son et texte se renvoient pour créer vraiment un univers cohérent, ce qui sort du format qui était celui d'avant, où c'est vraiment le tube, le 45 tours. Donc voilà, c'est aussi une volonté de gagner en crédibilité artistique, d'introduire des nouveaux instruments dans la musique.
Donc Magma, par exemple, fait une série de concept albums comme ça autour de la même thématique. Donc on peut dire, par exemple, Mécanique Destructive Commando, c'est un concept album.
Oui, oui, tout à fait.
Donc on va en entendre un petit morceau. Beaucoup d'entre vous connaissent ça, Nebergudat. Ça continue comme ça hein, pendant de longues minutes, ça monte jusqu'à l'explosion sur deux faces, 45 minutes donc. Ça fait partie d'un triptyque en plus, donc voilà, c'est un gros projet assez incroyable que celui de Magma. Ici, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent bien, mais dans le rock progressif, il y a d'autres. Hymne comme ça, il y en a un d'ailleurs très célèbre qui vient directement à l'esprit, Horace.
Absolument, à côté de Christian Vander et Magma, on peut citer King Crimson, autre acte fondateur du rock progressif, 21st Schizophrenic.
21st Century Schizoid Man.
C'est ça, merci Patrick. Voilà, Patrick, tu le passes d'ailleurs
hein. Oui, je le passais. parallèle, donc là on vient d'écouter 21st Century Skillet Man de King Crimson, hein, qui est peut-être le morceau qui a lancé le rock progressif. En parallèle, il y a un mouvement que la presse anglaise désigne sous un terme un peu péjoratif, qui apparaît en Allemagne, dont peut-être tu peux nous dire quelques mots, Horace.
Tu fais référence au krautrock, par hasard ?
Exactement.
Choucroute rock, littéralement. Un terme un peu fourre-tout pour parler de la scène allemande et d'un vivier de groupes incroyables qui révolutionnent en grande partie la pop musique à cette époque. Les plus connus, Cannes, Amondul, Kraftwerk. On parle de crowd, c'est difficile de dire si c'est vraiment un style uniforme, c'est plutôt une unité géographique, donc de groupes allemands et des pays alentours, mais qui se caractérise, disons, par une volonté de transgresser, d'expérimenter, de dépasser, qui se focalise soit sur le rythme, un rythme métronomique, comme Kraftwerk, Neu, ou création d'atmosphère. Alors, c'est des morceaux très longs, atmosphériques, on a Klaus Schulz, qui est peut-être le plus connu. Donc ça, c'est, disons, un thème, un style qui est vraiment très prolifique pour la thématique qui était la nôtre, science-fiction et musique. Là, il y a beaucoup, beaucoup de liens.
Il y a aussi, il faut remarquer qu'en fait, à la fin des années 60, il y a un peu ce parallèle entre voyage intérieur avec les drogues psychotropes et voyage cosmique. Il y a un peu de ça aussi qui a nourri cette thématique de la science-fiction. On dit, voilà, on part dans l'espace, après, en fait, être parti dans les espaces intérieurs, c'est ça aussi.
Autant le Space Age, on regarde vraiment les étoiles, littéralement, c'est la conquête des mondes extraterrestres, de la Lune, la course... La course à la conquête de l'espace entre soviétiques et américains dans la guerre froide, autant le rock psychédélique, c'est vraiment son envers, c'est l'exploration intérieure, les espaces intérieurs. C'est vraiment tout ça matiné d'aspects de contre-culture, de politique, donc ça donne quelque chose vraiment de très intéressant.
Mais là, la science-fiction est utilisée comme une métaphore avant tout, non, d'un combat politique. Ou pourquoi est-ce qu'on fait référence à la science-fiction? Pourquoi est-ce que Klaus Schulz ou Kraftwerk ou Kahn utilisent la science-fiction comme vecteur d'expression? Si on veut, ils pourraient faire de la musique sans dire qu'ils sont des cyborgs ou des robots ou que la musique vient du futur.
Dans le cas du krautrock, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de messages politiques ou... C'est plutôt, je dirais, renforcer l'effet planant de leur musique, donc d'utiliser des termes et des combinaisons aussi, des façons de s'habiller, des mises en scène qui renforcent cet aspect-là, mais c'est quand même pas comparable au rock psychédélique américain qui est vraiment, lui, délibérément politique, quoi.
Alors on va écouter un petit morceau peut-être de Klaus Schulz. Je vous garantis parce que ça dure 23 minutes. Voilà, de nouveau, je ne fais pas vraiment justice à ce morceau sur l'album Cyborg de Klaus Schulz, Sinfara, parce qu'il dure très longtemps et il monte comme ça aussi en puissance, mais on est dans la musique planante. Hein.
Voilà, je précise qu'il en écoute, si jamais, dans l'exposition en entier.
Voilà, donc plusieurs de ces morceaux sont dans l'exposition aussi en écoute, évidemment. Et, vous pouvez les retrouver. Et donc là, on est vraiment uniquement dans Klaus Schulz à l'époque, hein, dans le début des années 70. On est dans l'utilisation quasi exclusive d'instruments de musique électronique. Et comme vous le disiez, on a soit ces musiques planantes déstructurées, soit les musiques où les rythmes sont quand même un peu plus présents, un peu plus, on va dire, qui marquent, si on veut, cette volonté de montrer qu'on utilise la machine.
Oui, exactement. Donc, c'est une réflexion. Là, peut-être tu fais référence à Kraftwerk, son obsession pour les rythmiques métronomiques et toutes les références qu'ils font à la société industrielle, aux machines, aux robots, à la frontière homme-machine, leur obsession quasi morbide pour la technologie, que ce soit la radioactivité, la voiture. Et là, ils ouvrent vraiment une autoroute c'est un peu facile, mais pour les autres, pour d'autres groupes, quoi, pour d'autres scènes.
Alors on va en parler de ces scènes, principalement la scène anglaise, dans quelques instants, mais on va quand même passer un petit morceau de ce morceau le plus emblématique peut-être, quand même, des rapports entre musique et science-fiction, de The Robots, de Kraftwerk, sur l'album The Man Machine. Voilà, The Robots de Kraftwerk qui a marqué évidemment de nombreuses générations de musiciens. Par exemple, la scène anglaise, je pense à The Normal, par exemple, avec Warm Leatherette, inspiré aussi de Ballard. Il y en a d'autres, hein. Il y a New Order, bien évidemment.
New Order, il y en a vraiment beaucoup, Throbbing Gristle. On a aussi Gary Numan, là.
On a le Gary Numan, ça vous fait plaisir, on écoute Gary Numan. Hein. On a tout ici. Bon, allez, Gary Numan, juste pour vous faire plaisir. Metal, l'album de Pleasure Principle. Thank you. Gary Newman metal sur The Pleasure Principle. Horace, bon, voilà, on sait que cette scène anglaise a été extrêmement. On a survolé, hein, je suis désolé, on a oublié de vous mettre des funkadéliques, on n'a pas mis de reggae, tout ça, donc il y a beaucoup de choses à voir encore dans l'exposition. Mais évidemment, là, on est vraiment dans la musique électronique, dans ce qu'elle a de plus. Presque plus contemporain, en tout cas tel qu'on la connaît presque aujourd'hui. Les descendants de Gary Newman et de Kraftwerk, à la suite des années 90, c'est quoi? Ou les années 80, les années 90?
C'est vrai, là on pourrait passer de l'Angleterre et de la crise des années 70, sur ses décombres industriels, cette scène musicale synth-pop, influent, arrive à traverser l'Atlantique par le biais de DJ de radio, aux oreilles de musiciens, enfin de jeunes qui écoutent la radio à Détroit, qui seront les futurs DJ de la techno naissante, Derek May, Robert Hood, et d'autres encore qui vont faire cette scène techno qui est vraiment la scène fondatrice de la techno qui est née à la fin des années, déjà au mi-temps des années 80 jusque dans les années 90. Donc là, Kraftwerk, par les ondes, arrive chez ces gens, dans les oreilles de ces gens, et d'autres influences, funkadélique, tout ça, se mélange.
On est plutôt dans les milieux afro-américains.
Hein. Absolument, ouais. C'est là que on revient à ce fil conducteur qui traverse la musique afro-américaine, qui peut aller de Sun Ra à funkadélique, en passant par ces pionniers de la scène techno des années 90 à Détroit.
On va en écouter un morceau, on va pas encore en écouter 5 ans, donc un des morceaux qu'on va écouter, c'est X-102, qui fait partie aussi de cette mouvance, hein, je crois.
Oui, alors, sauf erreur, c'est un morceau de Robert Hood, avec encore un autre DJ dont je ne me souviens plus le nom. En fait, on parle d'un concept album, c'est vraiment l'idée étant de recréer l'arrivée d'une sonde sur... une planète qui est
les anneaux de Saturne.
Les Saturne, voilà, exactement. Encore Saturne.
Donc Saturne vraiment a marqué les esprits à cette époque-là. Donc en fait, on est à la fois dans quelque chose de très dansant et une musique qui au départ n'est pas commerciale en réalité, mais qui va connaître un succès, qui va dépasser ce côté expérimental.
Bon, là, on a un morceau très radical. Je veux dire que c'est aussi un courant qui a. Hein, une connotation, enfin, qui a cet aspect radical dans le sens où il milite aussi pour une certaine reconnaissance de cette minorité afro-américaine, donc qui a une volonté de se radicaliser, de se détacher un peu. Mais ça, c'est qu'une partie de la mouvance. L'autre partie, c'est aussi de créer une musique qui fasse finalement voyager, enfin danser et rêver.
Bon, il est un peu tôt pour danser, mais on va quand même écouter un petit moment. Voilà donc pour la techno de Détroit, que l'on connaît un peu si on est vieux trentenaire comme moi. Aujourd'hui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais quand même prendre une ou deux questions le cas échéant, mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des mouvements? Parce que enfin, là, peut-être que c'est le dernier grand mouvement qui a utilisé encore les disques vinyles pour se vendre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les MP3, même avec les CD il y a quelques années, est-ce qu'on a encore des supports propres à faire des musiques visuellement proches de la science-fiction? Est-ce qu'il existe encore de la musique de science-fiction ou qu'il y a des points de contact comme dont vous parliez?
Là, justement, ça faisait partie du projet d'exposition. C'est un projet annexe, c'est-à-dire de faire une compilation pour faire un état des lieux de l'influence de la science-fiction sur la musique. On a lancé un concours, un appel à un morceau, quoi, un appel à candidature, si on veut. Donc on a reçu beaucoup de maquettes, environ 150 démos, pardon. On a eu vraiment le plus grand mal à choisir les 20 morceaux qui figuraient dans cette compilation. Parce que vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, quoi, et dans des styles différents, très différents, quoi. Ça allait du surf à l'électro, en passant par... on avait aussi un morceau de reggae, on avait vraiment plein de choses. Donc en fait, visiblement...
Il n'y a pas aujourd'hui, l'électroclash ou ces genres musicaux, on va dire plus contemporains, ne revendiquent pas d'héritage lié à la science-fiction, apparemment. Donc si on fait un appel comme ça, on reçoit à la fois de l'expérimental, de la chanson française...
Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus des gens, je pense, qui connaissent cette musique, mais qui sont pas. Il n'y a pas de scène. C'est moins visible, disons. Ça irrigue moins la musique de façon explicite, quoi. C'est plus. Disons que c'est quand même un courant. La musique, disons, s'allie bien avec ces métaphores.
Science-fiction et continue. Vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cette conférence, que c'est l'un des morceaux emblématiques de cette compilation, c'est. Celui de Matt Wand, hein, qui est ce musicien, voilà, qui vient de Manchester, donc qui a fait ce morceau qui s'appelle Consumer World, qu'il a fait entièrement composé, je crois, sur console Nintendo. Donc on va entendre ça. C'est pas du easy listening, on est loin de Burt Bacharach, des premiers Space Age Pop du début. Hein. Aujourd'hui, la musique science-fiction, elle est encore un peu électronique, en tout cas cette version-là. Hein. Il y en a peut-être d'autres, on l'espère. Dans 20 ans, dans 15 ans, quand on fera la suite de cette exposition, eh bien, j'espère qu'on verra s'il y a eu encore un peu de travail sur ces rapports entre musique et science-fiction. J'aimerais bien peut-être, si vous avez une question, je vous laisse la parole, sinon on passera au bar, comme à l'accoutumée après une table ronde. Monsieur, nous vous écoutons. Avec un micro, main libre, je vous l'amène. Merci.
Bonjour. Non, c'est pas une question, c'est une réaction. J'aurais voulu entendre du Divo. Divo, c'est un grand groupe américain qui est quand même qui a inspiré pas mal et qui est franchement science-fiction.
Alors, allons-y.
Merci.
Allons-y. Ah, c'est spécial dédicace ce soir. Space goes on as cold as ice. I'll kiss you once and kiss you twice. Shiver shaking in the blue. On est tout à fait dans la thématique Space Girl Blue, Girls Blues, hein, Divo, groupe encore en activité, qui se balade avec des drôles de casques champignonnesques un peu sur la tête. Divo, c'est Devolution, hein, donc la dévolution, c'est l'inverse de l'évolution. Un groupe très particulier, un peu dans cet esprit aussi qu'a pu avoir The Residents, par exemple, ou ces groupes très expérimentaux de cette scène électronique, pop, qui a quand même fait des très grands succès commerciaux aussi au milieu des années 80. Une autre remarque, une autre demande peut-être.
Vous posiez des questions tout à l'heure sur, sur les groupes actuels qui pouvaient réutiliser la science-fiction. Moi, je pense aussitôt à Daft Punk avec Interstellar 2070, enfin, je ne sais plus le chiffre. Ça fait partie des groupes qui peuvent aussi utiliser dans leurs clips, parce qu'il n'y a pas que les pochettes de disques, on n'a pas du tout parlé des clips, mais il y a plein de groupes qui utilisent la science-fiction. Je pense à Moby aussi, avec les petits extraterrestres, etc. On aurait pu aussi parler du clip.
Absolument, on n'en a pas parlé parce que tout ça est dans l'exposition. Il y a une série, il y a cinq téléviseurs avec quelques clips vidéo quand même, Fisher Spooner et d'autres. Hein. Mais c'est vrai que c'est un support depuis, qu'est-ce qu'il y a eu dans les années 80, toutes sortes d'horreurs. ZZ Top par exemple, vous souvenez sans doute de ce clip magnifique où avec leur voiture... tout à fait emblématique, rentre dans une station spatiale. Voilà, je crois qu'il doit être là-bas, à l'entrée, la grande halle, l'espace Chaillol, ici à Cité des Congrès. Encore peut-être une ou deux réactions. Ah, il y a plein de réactions, j'aurais dû arrêter plus tôt.
Bonsoir. J'ai une question à vous poser. Si on prend la musique de film de science-fiction à proprement parler, si on prend par exemple Star Trek, qui avait un générique assez, un peu kitsch, mais bon, un peu moderne, quand Jerry Goldsmith l'a repris pour... dans le film, qui est sorti, je crois, dans les années 80, c'est devenu très classique. C'est comme James Horner quand il a fait Avatar ou L'Homme Bicentenaire, c'est super classique. On n'est plus du tout dans la musique science-fiction. Alors qu'on a des bécanes hyper performantes, pourquoi, alors que les films sont devenus vraiment avec des effets spéciaux fantastiques, pourquoi la musique, elle, est devenue d'un classicisme extraordinaire?
Alors, je crois, en fait, c'est que... dans les films et dans les génériques de télévision de science-fiction, il y a l'utilisation de la musique de plusieurs manières. Il y a à la fois le côté déstabilisant ou un peu étrange, on a écouté X-Files au départ. Il y a eu aussi, vous souvenez sans doute de la musique de Wendy Carlos pour Orange Mécanique, qui est une espèce de musique classique mais jouée au synthétiseur, le côté déstabilisant. Et aujourd'hui, dans Avatar, de nouveau, pour reprendre cet exemple, on est très loin, comme vous le dites, ou dans Star Trek, les dernières versions. Simplement, je crois, mais je peux me tromper, parce que la musique de film aujourd'hui, elle sert avant tout à soutenir la narration. Elle soutient la narration où en fait le côté épique d'action des personnages est mis en avant. Donc je ne crois pas que la musique joue un rôle malheureusement très important dans son impact dans le film. Il y a quelques exceptions assez notables comme Rencontre du troisième type, évidemment, où on communique avec la musique. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, je crois. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Horace, mais je me sens que aujourd'hui, est-ce que c'est plus conservateur qu'il y a... Enfin, en tout cas, comme je vous ai fait écouter Planète Interdite, c'est vrai qu'il y a 60 ans, on se permettait peut-être des musiques tout à fait étranges. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? C'est peut-être un manque de prise de risque, mais ça, c'est un peu banal à dire, mais ça semble vrai.
Bonjour. Voilà, juste, c'est pas une question d'ailleurs, c'est bon. Simplement parce que tout à l'heure vous parliez donc de la musique science-fiction française, et je trouve qu'il y a un album que vous n'avez pas mentionné qui est très important. Vous avez parlé de Starmania, mais il y a un autre album,
La Mort d'Orion.
Voilà, exactement, de Gérard Manssé, qui était le premier album concept à ma connaissance français.
Hein. Oui, c'est voilà. Absolument. On aurait pu le passer puisque il est dans l'exposition, mais on n'a pas le temps. Et comme il y a une conférence sur le jeu vidéo qui va commencer il y a 5 minutes, je vous souhaite une très bonne soirée et à plus tard ici aux Utopiales, Festival international de science-fiction de Nantes. Merci Patrick Couton, merci Horace. Ferret. Selambobo be iweke, uwa na malaje juwe.